Imaginez un instant une société, une culture entière en fait, où le simple fait de penser aux autres avant soi-même n'est pas du tout perçu comme une qualité.
Ah oui, c'est pas de la gentillesse dans ce contexte.
Non, pas du tout. C'est carrément vu comme une pathologie sociale. Genre une faiblesse pitoyable.
Presque honteuse, ouais.
C'est ça. Un truc strictement réservé aux esclaves ou aux gens qui n'ont absolument aucun statut. Et on parle de l'Empire romain du 1er siècle, là.
L'épicentre du pouvoir et de la hiérarchie.
Exactement. Et au milieu de toute cette culture obnubilée par le statut, on a un homme, l'apôtre Paul, qui écrit une lettre depuis une cellule de prison. Et le truc fou, c'est qu'il réussit à complètement renverser cette logique.
C'est clair.
Eh ben, c'est le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On va se plonger dans une analyse vraiment hyper détaillée menée par le docteur Matthew S. Harmon. C'est la 9e session de son étude sur l'épître de Paul aux Philippiens et on va se concentrer sur le chapitre 2.
Du verset 19 au verset 30, pour être précise.
Voilà. Et la mission, en gros, de cette analyse, c'est de comprendre comment des concepts hyper abstraits prennent vie.
Ouais, parce que c'est le grand défi de la théologie, en fait. Sur le papier, c'est très beau, très abstrait, on manipule des concepts massifs, le salut, l'humilité absolue, ou ce fameux état d'esprit du Christ.
Des grands mots.
C'est ça. Mais la vraie question que pose ce texte, c'est à quoi ça ressemble, concrètement, le mardi matin, incarné par des vraies personnes. Des gens faits de chair et de sang, quoi.
D'accord, décortiquons tout ça. Parce que, pour ceux qui nous écoutent, il faut bien situer le décor. Paul vient de faire un discours super conceptuel juste avant. Il demandait à la communauté de travailler à leur propre salut.
Mais pas en solo. C'est un détail crucial de l'analyse du docteur Harmon.
Ouais, pas du tout un projet de développement personnel qu'on ferait dans son coin. Il les mettait en garde contre les erreurs de l'ancien Israël.
Les murmures dans le désert, tout ça.
Voilà, la tendance à se plaindre au moindre obstacle. Et il allait jusqu'à utiliser une image, d'une intensité franchement, c'est une image folle. Il se décrivait lui-même comme une offrande.
Une libation liquide. Pour être exact.
C'est ça. Littéralement versé sur le sacrifice de leur foi.
C'est une image poétique, ouais, mais je pense qu'il faut réaliser à quel point elle est exigeante. Paul est en train de leur dire, en gros, ma vie se consume pour vous.
C'est lourd.
Hyper lourd. Mais le problème avec les métaphores, même les plus puissantes, c'est qu'elles finissent par atteindre leurs limites. Et Paul, bah, c'était un fan psychologue. Il savait très bien qu'une belle théorie sur l'humilité, ça suffit pas à transformer le comportement des gens. Pour que ça s'enracine, notre cerveau a besoin de modèles concrets.
De gens qu'on peut imiter.
Exactement, des gens qu'on peut observer au quotidien. Et c'est pour ça qu'il introduit d'un coup deux personnages historiques bien réels dans son argumentation.
Timothée et Épaphrodite.
Voilà.
Bon, alors penchons-lui sur le premier. L'étude commence par Timothée, qui est, on va dire, le collaborateur ultime.
L'initié par excellence.
Le bras droit, quoi.
Ouais.
En fait, j'essaie de trouver une comparaison. C'est un peu comme, tiens, si on essaie d'apprendre la datation.
D'accord.
Tu peux lire tous les manuels de biomécanique que tu veux. Les trucs sur la résistance de l'eau, la respiration bilatérale, la poussée.
Ouais, toute la théorie.
Toute la théorie. Mais si on te jette dans le grand bain, avec juste bouquin en tête, bah, tu coules à pic.
C'est sûr.
On a tous besoin d'un maître nageur qui plonge dans l'eau avec nous. Quelqu'un qui fait les mouvements sous nos yeux pour qu'on capte la mécanique. Et pour cette communauté antique, bah, Timothée, c'est exactement ce maître nageur.
C'est une très bonne façon de le visualiser. Mais j'irai même un peu plus loin. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est l'expression spécifique que Paul utilise pour parler de Timothée.
Ah oui, dans le texte original.
Voilà. Il parle de sa valeur éprouvée. Et dans le grec d'origine, on n'est pas du tout dans le domaine de la natation. On est dans le vocabulaire de la métallurgie.
Attends, la métallurgie? C'est-à-dire, genre forgeron et tout
C'est ça. C'est l'image des métaux qu'on teste par le feu. À l'époque, quand on extrayait de l'or ou de l'argent, le métal brut était bourré d'impuretés. Et pour prouver sa vraie valeur, il fallait le chauffer à des températures extrêmes, dans un creuset. Ce qui remontait à la surface, c'était les scories, la saleté, et on l'éliminait.
Ah, je vois.
Donc Timothée, il n'a pas juste un beau diplôme de comportement affiché sur le mur. Sa valeur, elle a été forgée et surtout prouvée dans le feu des épreuves quotidiennes.
Dans le ministère, sur le terrain.
Exactement.
Mais concrètement, comment ça se voyait au quotidien? Parce que bon, à l'époque, j'imagine que tout le monde galérait pour survivre. Qu'est-ce qui rendait Timothée si différent des autres gars de l'entourage de Paul?
Eh bien, c'est là que le fameux contraste culturel entre en jeu. Le docteur Harmon rappelle dans son analyse que Paul se plaint même de son propre entourage. Il dit que la plupart des gens, je cite, « cherchent leurs propres intérêts ».
Ah ouais, même dans son cercle proche.
Ouais, il faut comprendre que le monde antique, ça fonctionnait à fond sur le favoritisme. Le clientélisme, la recherche de statut, tu t'associes à quelqu'un juste pour grimper l'échelle sociale.
Du réseautage intéressé, quoi.
C'est exactement ça. Mais Timothy, lui, il démontre un souci vibrateur, un amour authentique pour le bien-être des Philippiens. Il cherche pas du tout à s'élever, il cherche juste à servir. En fait, il a intériorisé cette fameuse humilité du Christ dont Paul parlait.
Mais pas comme un concept abstrait.
Non, comme un vrai mode de vie.
Ce qui rend cette transmission, le caractère possible, c'est la profondeur de leur relation. Il y a un détail culturel dans les notes du docteur Harmon qui m'a vraiment marqué.
Sur l'apprentissage ?
Ouais. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à séparer l'école de la vraie vie, tu vois. On va en classe, on écoute un prof parler pendant 2 heures de façon super impersonnelle, et puis on rentre chez soi.
Chacun sa vie.
Voilà. Mais dans le monde gréco-romain, l'apprentissage était complètement fusionnel. Un fils apprenait le métier de son père en devenant son apprenti H24.
C'est vrai.
Si le père était tailleur de pierre, le gamin était là, dans la poussière, à observer chaque coup de burin, à absorber chaque geste. C'était pas juste une transaction commerciale, il y avait une affection énorme. Et c'est les mots exacts que Paul utilise. Il dit que Timothée a travaillé avec lui comme un enfant avec son père.
Tout à fait. Et il y a une nuance linguistique qui vient appuyer ça. L'analyse du docteur Harmon explique que cette relation père-fils résonne avec un idiome hébreu hyper courant à l'époque.
Ah bon ? Lequel ?
Dans la pensée hébraïque, un fils est censé ressembler à son père.
Physiquement ?
Non, justement. Pas physiquement, mais dans son essence, dans son caractère. Et après 10 ans de collaboration avec Paul, 10 ans de voyage de dingue, de nuit en prison, de fondation d'église...
Ouais, c'est un sacré bout de temps.
Ouais. Eh ben, Timothée a littéralement absorbé l'ADN spirituel de Paul. Et c'est pour ça que Paul dit, un peu plus loin, qu'il n'a personne d'autre de comparable à envoyer.
Envoyer, pourquoi faire d'ailleurs ? Je pense qu'il faut qu'on rappelle l'urgence de la situation tactique là.
Oui, le contexte de la prison.
Parce que Paul, il écrit pas ça posé dans un bureau avec un café. Il est très probablement en prison à Rome.
Enchaîné à un garde prétorien.
Voilà, enchaîné à un soldat. Il attend l'issue de son procès. Il peut être exécuté n'importe quand. Et au milieu de cette angoisse de mort, il décide d'envoyer son meilleur gars, Timothée, à des centaines de kilomètres, à Philippe, juste pour prendre de leurs nouvelles.
Et pour qu'il revienne lui en donner.
C'est un niveau de confiance absolu.
Ouais, Timothée, c'est vraiment le disciple façonné de l'intérieur, sur la durée. Mais ce qui rend cette source si riche, c'est qu'elle s'arrête pas là. On a un deuxième exemple.
Épaphrodite.
Exactement. Si Timothée s'est l'initié de longue date, ce deuxième exemple explore un engagement qui vient de l'extérieur. Un type d'engagement qui pousse le sacrifice jusqu'à une limite, frôlant la mort, littéralement.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'Épaphrodite, c'est pas le protégé de 10 ans. C'est pas le petit prodige de l'apôtre.
Non, c'est un envoyé.
C'est un simple messager. L'église de Philippe l'a mandaté pour apporter de l'argent ou des vivres à Paul en prison. C'est sans vouloir lui manquer de respect, c'est le livreur de la communauté, quoi.
Le coursier, ouais.
Et pourtant, regardez les mots que Paul utilise pour le décrire. Il aplatit complètement toute forme de hiérarchie.
Il le traite pas du tout de subordonné.
Pas du tout. Il l'appelle frère, il l'appelle compagnon d'œuvre, et surtout, il utilise ce terme de compagnon d'armes. On passe carrément d'un vocabulaire civil à un registre militaire.
Ouais, ça évoque la lutte, la boue, les tranchées.
La solidarité à la vie, à la mort.
Et ce vocabulaire militaire n'est vraiment pas exagéré, parce que le texte nous dit qu'Épaphrodite a frôlé la mort.
Littéralement.
Pendant son voyage, il a chopé une maladie foudroyante. L'analyse dit qu'on ne sait pas exactement ce que c'était, mais il est arrivé à un stade critique. Et le texte mentionne qu'il était dans une détresse psychologique extrême, une angoisse énorme.
Bon, attendez, je bloque un peu sur ce passage.
Pourquoi ?
S'il est en train de mourir au 1er siècle, sans antibio, loin de sa famille, son angoisse, logiquement, ça devrait être la peur de mourir, non ?
C'est l'instinct de survie de base.
C'est ça. Mais l'analyse de Harmon souligne que c'était pas du tout la cause de son stress. Franchement, ça me paraît totalement irrationnel. Pourquoi il était dans cet état, alors ?
L'étude montre très clairement qu'Épaphrodite n'était pas angoissé par sa propre mort. Il était angoissé parce que sa communauté, à Philippe, avait appris qu'il était malade.
Ah ! Donc le gars est sur son lit de mort, et il stresse parce que des gens à l'autre bout du pays s'inquiètent pour lui.
Exactement. Il porte le poids de leur chagrin. C'est de l'empathie poussée à l'extrême. Et pour vraiment saisir l'intensité de ce qu'il ressentait, il faut regarder le vocabulaire grec que Paul utilise.
Le terme pour angoisse.
Ouais, ce terme pour décrire sa détresse, il est rarissime. Le docteur Harmon fait remarquer qu'on ne le retrouve dans tout le Nouveau Testament que dans une seule autre scène.
Laquelle ?
Dans les évangiles de Matthieu et Marc pour décrire l'agonie absolue de Jésus dans le jardin de Gethsémané, juste avant d'être crucifié.
Ah ouais, carrément ce mot-là. C'est glaçant comme comparaison. Ça veut dire qu'il subissait un véritable écrasement, c'est pas juste un petit coup de stress.
C'est un écrasement total, oui. Et si l'on relie ça à la vue d'ensemble du contexte gréco-romain dont on parlait tout à l'heure, c'est là qu'elle choque.
C'est clair.
Dans cette société hyper dure, sans rendre malade d'angoisse pour les émotions des autres, c'était vu comme une aberration totale. Et pourtant, Paul donne cette instruction radicale, il dit aux Philippiens d'accueillir Épaphrodite avec joie et de l'honorer.
Pourquoi spécifiquement ?
Parce qu'il a mis sa vie en jeu pour les servir. Cet homme ordinaire a parfaitement incarné l'obéissance du Christ, qui est allé jusqu'à donner sa vie. L'analyse mentionne d'ailleurs que Dieu a fait miséricorde non seulement à Épaphrodite en le guérissant, mais aussi à Paul, pour lui éviter, je cite, « une tristesse sur tristesse ».
Et cette expression « tristesse sur tristesse », je trouve qu'elle est hyper révélatrice.
Ouais, elle est très belle.
On a tellement l'habitude d'imaginer Paul comme ce rock stoïque, tu sais, le super-héros intouchable.
Qui pleure jamais.
Voilà, mais cette phrase montre une vulnérabilité immense. Il avoue que si son pote était mort, il aurait été complètement détruit.
La prison, le froid, la mort d'un ami, c'était la goutte d'eau, quoi.
L'accumulation aurait été insoutenable. Bon, alors on a ces deux figures historiques. L'apprenti Timothée, façonné sur 10 ans, et le messager Épaphrodite, prêt au sacrifice ultime. C'est impressionnant.
Très impressionnant.
Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Parce que bon, si on ramène ça à notre époque, on va être franc, les chances pour que ceux qui nous écoutent doivent risquer leur vie pour livrer un colis à un prisonnier politique, c'est proche de zéro.
Heureusement d'ailleurs.
Oui, heureusement. Mais du coup, comment ces principes vieux de 2000 ans atterrissent-ils dans notre quotidien, qui est super normé et confortable ? L'étude de Harmon aborde cette transition et j'ai trouvé son analogie géniale. On a une grosse tendance à compartimenter notre existence aujourd'hui.
Oui, l'image de la boîte à bento.
Exactement, la boîte à bento. Tu vois ces petites boîtes japonaises au resto.
Où rien ne se touche.
C'est ça, la règle d'or. T'as le riz dans une case bien carrée, le poulet dans une autre, les légumes à côté. Et il faut surtout pas que la sauce déborde.
C'est le drame sinon.
Eh ben, c'est exactement l'architecture mentale de la société moderne. On a la case boulot qui est hermétiquement fermée. À côté, on a la case famille, puis la case sport ou loisirs. Et relégué dans un petit coin, on a la case spiritualité ou religion.
C'est très vrai.
On gère ça en parallèle, en s'assurant que le contenu d'une case ne contamine jamais l'autre. Mais l'analyse du docteur Harmon s'oppose frontalement à ça, non ?
Ah oui, totalement. Son argument central, c'est que l'identité de serviteur, ce fameux état d'esprit du Christ, ça peut pas être juste un ingrédient qu'on range dans un coin de la boîte à bento.
C'est pas juste le petit radis sur le côté.
Non. Ça doit être le matériau même avec lequel la boîte est fabriquée. Ça doit s'infiltrer partout.
Partout.
Ouais, dans ta façon de répondre à un mail agressif au bureau, dans la gestion d'un conflit avec tes enfants ou même dans la façon dont tu dépenses ton budget loisir. Mais bon, cela soulève une question importante, un vrai problème théologique qui est dans la tête de pas mal de gens.
Ah oui.
Lequel ?
Le fatalisme lié à la souveraineté de Dieu.
Oula, grand concept. Oui, mais c'est simple en fait. Dans beaucoup de traditions, on insiste tellement sur le fait que Dieu contrôle absolument tout que les gens arrivent à une conclusion un peu paralysante. Ils se disent « Ben, si Dieu est tout-puissant, de toute façon, il fera ce qu'il a prévu. Mon action à moi, mon petit effort pour ressembler à Épaphrodite, ça sert à rien. »
L'excuse parfaite pour rien faire, quoi.
C'est ça. Ce que je fais n'a pas d'importance. Or, ce passage démolit cette idée. Dieu pourrait agir seul, évidemment, mais le texte montre qu'il choisit délibérément la dignité de l'action humaine.
Il choisit d'avoir besoin de nous.
Exactement. Il utilise des humains imparfaits, fatigués, malades même, pour faire avancer les choses. Nos actions concrètes ont un vrai poids.
Et c'est hyper rassurant, parce que ça vient tordre le cou à un autre fléau moderne, le complexe d'infériorité spirituelle.
Oh, tellement commun aujourd'hui.
On ouvre YouTube, on voit des orateurs incroyables, des pasteurs surqualifiés avec des lumières parfaites, et on se dit, ok, eux, ils impactent le monde. Moi, je suis juste un comptable, ou un infirmier, ou un prof de maths, j'ai zéro diplôme en théologie.
Qu'est-ce que je peux bien apporter ?
Exactement. Et ce que cette étude nous crie, c'est que c'est une illusion totale. T'as pas besoin d'une scène, ni d'un micro, pour incarner cette valeur éprouvée. Chacun a des ressources tangibles. Du temps, une capacité d'écoute, un peu d'énergie.
C'est souvent les petites choses.
Ouais. Sacrifier 30 minutes de son confort pour écouter quelqu'un qui va mal, c'est déjà être dans ce fameux état d'esprit.
Et ça nous amène d'ailleurs à une application hyper pratique que le docteur Harmon souligne, le besoin urgent de mentorat organique.
Mentorat organique ?
Oui, il fait le constat que nos sociétés, et surtout les jeunes, ont soif d'être accompagnés. Mais attention, on ne parle pas d'un programme officiel de l'Église avec un badge et des réunions formelles.
On parle de quoi alors ? Prendre un café ?
Voilà, c'est prendre un café. Partager la vraie vie. Les jeunes veulent des aînés capables de leur montrer, pas une façade parfaite, mais la réalité de leur parcours. Des gens qui disent « Écoute, là j'ai complètement foiré et voilà comment je m'en suis sorti. »
Mais c'est flippant de faire ça.
C'est super vulnérable. Et le défi aujourd'hui, c'est qu'il manque de personnes matures, prêtes à assumer ce rôle. Des gens prêts à ouvrir leur emploi du temps surchargé pour investir dans quelqu'un d'autre. C'est l'équivalent de Paul qui investit 10 ans dans Timothée.
C'est un investissement coûteux. D'ailleurs, si on devait synthétiser cette plongée dans ces textes antiques, je dirais que la leçon est super claire. Les vraies couleurs d'une personne, sa fameuse valeur éprouvée comme l'or dans le feu,
ça se révèle dans le sacrifice.
Voilà, dans sa capacité à risquer ce qu'elle aime pour les autres. Pour Épaphrodite, c'était sa vie physique. Pour nous, c'est plus subtil, mais tout aussi dur. C'est sacrifier notre tranquillité, laisser quelqu'un d'autre bousculer notre agenda.
Accepter de rentrer dans la douleur de l'autre sans avoir de solution toute faite.
Et pour ancrer ça, le docteur Armand lance un défi super pragmatique. Il dit « Regardez dans votre entourage, un collègue, un ami, cherchez un de ses serviteurs de l'ombre, quelqu'un qui se donne sans chercher la lumière, un Timothée ou un Épaphrodite moderne, quoi.
» Il y en a plein.
Et trouver un moyen de l'honorer aujourd'hui. Pas pour gonfler son ego, mais pour valider son travail. Ça peut être un vocal, un texto, un mail. Juste dire « Je vois ce que tu fais quand personne regarde et merci. »
Ça peut littéralement changer la semaine de quelqu'un.
Totalement. Bon, avant de conclure, j'aimerais qu'on aille un cran plus loin. L'analyse de Harmon nous a donné de super bases, mais qu'est-ce qui se cache sous la surface pour vous ?
Il y a une réflexion qui me vient, si on tire un peu les fils du texte. Une idée qui percute complètement notre culture actuelle. Aujourd'hui, on idolâtre l'indépendance. Le but ultime, c'est le mythe du « self-made man ». Être autonome financièrement, émotionnellement, n'avoir besoin de personne.
Être intouchable.
C'est ça. Mais le modèle biblique ici est inversé. Regardez Paul, c'est un géant intellectuel et pourtant il est en tôle, démuni. Sa seule joie, c'est d'être viscéralement dépendant de ses amis. De Timothée, d'Épaphrodite.
C'est vrai, il assume d'avoir besoin d'eux.
Et ça soulève une question vertigineuse. Et si la vraie liberté ne résidait pas dans l'indépendance ? Et si le summum de l'épanouissement humain, c'était une interdépendance radicale ?
Waouh !
Si Dieu utilise délibérément notre fragilité, comme la maladie d'Épaphrodite, pour créer des liens, alors notre vulnérabilité n'est plus un défaut à cacher. C'est le terreau où se forgent les vraies relations.
C'est une pensée fascinante pour terminer. Arrêtez de voir nos failles comme des problèmes à colmater, mais comme des points de connexion. Voilà un changement de perspective énorme. Merci infiniment à notre auditoire de nous avoir suivis dans cette exploration exigeante. Ces figures antiques ont encore tellement de choses à nous apprendre.
On vous laisse réfléchir à cette idée d'interdépendance.
Et la prochaine fois que la théorie vous semblera trop compliquée, rappelez-vous qu'il suffit d'un bon maître nageur pour oser sauter à l'eau. À très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée.